Bonjour cher Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi, à deux jours du premier tour de l'élection présidentielle. Alors Géraldine Mesnil-Savoie vous donne rendez-vous à 10h46 pour son petit précis philosophique à l'usage des candidats et des électeurs. Quant à nous, eh bien, nous avons 45 minutes pour vous donner envie de lire les textes de Germaine de Staël réunis dans un volume de la Pléiade. Quel luxe! Allez en route!
En septembre 1810, les habitants de Blois suivent une visiteuse qui se rend au théâtre pour entendre Cendrillon, un opéra à la mode. Lorsqu'elle se promène à la foire, ils grimpent sur leurs chaises pour l'apercevoir. Par quoi la curiosité des provinciaux est-elle attisée et quel est le personnage sur les pas duquel l'on se presse? Il ne s'agit pas d'une princesse du sang ou d'une actrice admirée, mais de la femme la plus célèbre de l'Europe, Germaine de Staël, en résidence au château de Fossé, bien loin de la capitale dont le séjour lui est interdit. Des espions de la police impériale surveillent ses moindres mouvements, spéculent sur ses conversations, entretiennent des fantasmes de brigues et de complots, puis compilent au jour le jour force rapports. Elle est accusée d'avoir attiré une véritable cour dans ce coin de la campagne tourangelle. Or, sa principale préoccupation est la littérature. Auteur d'écrits politiques et philosophiques nombreux, romancière à succès, jouissant depuis belle lurette d'un grand renom, elle est également dépeinte dans la presse comme une intrigante, ennemie du régime. Et cependant, s'il faut la croire, ce qui la rend intéressante plus que tout pour les gens du commun, ce ne sont pas ses talents considérables ou sa fréquentation du beau monde en France comme Outre-Rhin ou au-delà des Alpes, c'est son malheur.
Bonjour Katrina Seth.
Bonjour Adèle Van Rett.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeure de littérature française à l'université d'Oxford et à l'université de Lorraine. Et vous êtes l'auteur de cette excellente introduction au nouveau volume de la Pléiade consacré aux écrits de Germaine de Staël. Enfin, je dis aux écrits. On trouve trois de ses écrits alors que c'est une femme qui a énormément écrit.
Alors Germaine de Staël, vous avez raison, est une femme qui a énormément écrit et dans des styles très divers. C'est quelqu'un qui se lance en littérature d'une manière tout à fait inattendue puisque sa première œuvre, ce sont des lettres sur Jean-Jacques Rousseau en 1788, à un moment où la réputation posthume de Rousseau n'est pas du tout acquise et aussi à un moment où on ne s'attend pas à ce qu'une femme se permette d'émettre des jugements littéraires sur des textes dont certains font encore scandale. Je pense par exemple au Contrat social, à l'Émile, ou bien entendu aux Confessions.
Germaine de Staël, donc l'auteur d'une littérature dont on n'aura jamais fait le tour parce que ce sont des milliers et des milliers de pages. Dans ce volume, il y a trois textes qui sont sans doute les plus importants, les plus connus. Un texte sur la littérature et deux romans, un qui s'appelle Delphine et un autre qui s'appelle Corinne. Est-ce que c'est une bonne manière de rentrer dans l'œuvre de Germaine de Staël?
Alors je pense que c'est une bonne manière de rentrer dans l'œuvre de Germaine de Staël parce que l'une des caractéristiques de son écriture, c'est d'aborder des thèmes d'une manière qui dépend à la fois de questions générales plus importantes et du genre dans lequel elle écrit. C'est-à-dire qu'elle peut aborder des questions comme l'avenir de l'Europe, la valeur des affects et ainsi de suite, aussi bien dans un traité philosophique que dans un roman.
Alors Germaine de Staël, essayons de la présenter quand même rapidement. Elle naît en 1766, le 22 avril, ce sera demain d'ailleurs, on pourrait fêter son anniversaire demain. Elle meurt en 1817, à 51 ans, d'une mort assez inattendue. Et elle laisse derrière elle non seulement une œuvre très remplie, ça on l'a dit, mais aussi une vie complètement romanesque.
Alors Germaine de Staël est à la fois un immense auteur et un personnage extraordinaire. Un personnage qui paraît s'inscrire dans l'excès. En effet, vous le rappeliez, elle naît en 1766. Elle est la fille d'un couple suisse, Suzanne Curchaud, fille de pasteur, et Jacques Nècre, ou Necker, on dit Nècre à l'époque, qui va être un ministre de Louis XVI. C'est un banquier richissime et c'est extraordinaire d'avoir cet homme donc, qui n'est pas français, qui va se retrouver ministre du roi de France, qui va être en quelque sorte le banquier de la monarchie française. Et donc, la jeune fille qu'on appelle à l'époque Louise, de son second prénom, elle est baptisée Anne-Louise Germaine, la petite Louise, dès l'enfance, en quelque sorte, est repérée comme enfant du financier Nècre et comme une personnalité qui existe par elle-même parce que c'est la fille unique de ses parents et elle va être élevée dans un milieu intellectuel bouillonnant. Ses parents ont un salon dans lequel ils reçoivent la terre entière, ils reçoivent énormément d'étrangers, ils reçoivent bien entendu les financiers, ils reçoivent les gens qui ont des intérêts politiques, mais aussi par exemple les artistes. La mère de Germaine de Staël est quelqu'un qui est extrêmement intéressé par la littérature. Jeune fille, elle a fait elle-même partie d'une espèce de société littéraire à Lausanne. C'est quelqu'un qui a des velléités d'écriture, mais à qui son mari interdit d'écrire en estimant qu'il faut absolument donc s'occuper de son mari quand on est une femme mariée. Et donc, cette Suzanne Curchaud, Suzanne Nècre, a un intérêt pour la littérature et les arts qui va la conduire à accueillir dans son salon des gens très divers comme Marmontel, Buffon, avec qui elle est très, très liée, par exemple, Thomas, l'académicien, et ainsi de suite. Et donc, la petite Louise, comme on l'appelle à l'époque, baigne dans ce climat tout à fait remarquable et elle est entourée de ses regards, seule enfant, entourée de ses regards d'adulte et de cette conversation stimulante. Donc, dès le départ, je dirais, elle a tout pour être un personnage hors du commun.
Et sa vie sera à l'image de son destin, quasiment, puisqu'elle-même va connaître de nombreux rebondissements. Elle va se mettre très tôt à l'écriture, et c'est une écriture qui va à la fois rencontrer rapidement un grand succès, mais va aussi beaucoup déplaire. Elle va même connaître l'exil.
Alors, vous avez raison.
Je suis allée très vite, hein.
Vous avez raison, c'est une écriture qui à la fois rencontre un intérêt immédiat. Je parlais des lettres sur Jean-Jacques Rousseau qui sont publiées d'abord dans un tirage très très limité de manière anonyme mais qui vont ensuite être réimprimées et celle qu'on va appeler après son mariage avec le baron suédois Éric Magnus de Staël, donc Germaine de Staël, va écrire toute une série d'œuvres qui vont la rendre célèbre mais elle aura une célébrité qui est aussi une renommée en quelque sorte, quelque chose qui sera à double tranchant. On va aussi bien l'admirer que la haïr, la honnir. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette double vision d'elle ? Eh bien tout d'abord parce qu'on ne s'attend pas généralement à ce qu'une femme occupe une place aussi importante. On la jalouse, elle est riche, elle est en vue, elle connaît beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui veut avoir son mot à dire sur beaucoup de questions dans des domaines dans lesquels on n'attend pas forcément les femmes à l'époque. Et donc elle va avoir cette espèce de célébrité à double tranchant, comme je disais, donc qui la rend à la fois très attirante pour les gens qui l'entourent et quelqu'un dont on se méfie grandement.
Parce qu'elle prend position aussi politiquement, sur la scène politique.
Alors, Germaine de Staël va très vite prendre position sur la scène politique. Donc, elle a épousé, je le disais, le baron suédois Éric Magnus de Staël-Holstein. Alors, c'est un couple qui ne va pas marcher très bien, très vite. Ils vont éprouver une certaine distance l'un envers l'autre. Et Germaine de Staël, au début de la Révolution, a pour amant Louis de Narbonne, dont on dit qu'il est le fils illégitime de Louis XV. Et elle va épouser la cause de Louis de Narbonne qui en plus est filleule de l'une des tantes du roi. Et Germaine de Staël va donc essayer d'encourager ses combats à lui. Elle va par exemple proposer d'aider la famille royale à s'évader, donc programme qui ne se concrétisera pas. Mmh. Elle va aussi, au moment où Marie-Antoinette se retrouve à la conciergerie, écrire des réflexions sur le procès de la reine par une femme dans lesquelles elle s'engage, alors qu'elle n'aime pas Marie-Antoinette comme individu, mais des réflexions dans lesquelles elle s'engage pour essayer de montrer l'importance de donner une place à la fois à la sensibilité en politique et à la femme et aux vertus féminines. Donc c'est une prise de position extrêmement intéressante. Et elle voit aussi, en termes politiques, quelque chose, je crois, très clairement, très nettement, c'est que si on met à mort Marie-Antoinette, eh bien, on lui donne un rôle que la monarchie ne lui reconnaissait pas, parce qu'on fait d'elle un personnage égale en dignité au roi, alors que les reines de France ne sont pas sacrées. Et elle imagine cette figure consacrée de Marie-Antoinette, consacrée par la mort, et là, elle a tout à fait raison. Donc ça, c'est un exemple donc des premiers combats politiques de Germaine de Staël, mais surtout, elle va se découvrir l'âme républicaine. Mmh. Et c'est peut-être quelque chose de très inattendu. Elle va se découvrir l'âme républicaine et elle va lutter pour la République par ses écrits, entre autres.
Ce qui va déplaire aussi notamment à Napoléon.
Alors, elle fait partie des gens qui déplaisent beaucoup à Napoléon, Germaine de Staël. Alors, au début, il faut rappeler que Napoléon est d'abord Bonaparte. Et Bonaparte, c'est le général qui est le héros de l'Italie. Et lorsque Bonaparte est le héros de l'Italie, eh bien, Germaine de Staël, comme beaucoup de ses contemporains, l'admire, pense que c'est celui qui va réussir à faire émerger l'équilibre après le chaos et qui va amener une forme de république vertueuse. Alors, évidemment, très vite, elle va devoir déchanter puisqu'elle va découvrir donc les dérives autocratiques de Napoléon et le désir de Napoléon de développer un régime qui n'est pas du tout républicain ni démocratique.
Et donc, pour essayer de libérer le champ devant lui, Napoléon va tout simplement la condamner à l'exil.
Napoléon va l'exiler à plusieurs reprises. Napoléon trouve que Germaine de Staël est dangereuse. Et il a raison jusqu'à un certain point, je pense, de la trouver dangereuse. Elle est dangereuse pour lui. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle exerce quand même un magistère sur l'opinion publique. C'est quelqu'un qui est très en vue. C'est quelqu'un qu'on écoute. C'est quelqu'un qu'on lit. Et c'est quelqu'un qui a des réseaux phénoménaux. Et les contemporains de Germaine de Staël proposent parfois des parallèles entre Napoléon et Germaine de Staël en disant, mais au fond, tous les deux essaient de conquérir l'Europe, mais chacun le fait à sa façon. Donc Napoléon par les armes et Germaine de Staël par les écrits. Et un bon mot circulait, et c'est Victorine de Châtenay en particulier qui rappelle, qu'on disait dans les salons que Bonaparte avait persécuté Germaine de Staël de manière à ce qu'on dit qu'en Europe, il fallait compter trois puissances, l'Angleterre, la Russie et Madame de Staël.
Madame de Staël qui, du coup, parce qu'elle est exilée, va être amenée à aller dans différents pays et effectivement va mener cette vie qui semble aller faire fi de toute forme de frontières. C'est vrai dans la littérature, mais c'est vrai aussi de manière même géopolitique, les frontières bien réelles.
Alors, Germaine de Staël a d'abord une conception qui est une conception presque sans frontières, en quelque sorte. Elle commence par être très attachée à Paris, ville où elle est née, et les Français le lui rendent assez mal puisque on ne lui concède pas sous l'Empire le droit de se désigner comme française, et donc elle va essayer de s'imposer d'abord comme française, alors qu'elle a des parents suisses, en disant qu'elle a toute la Suisse en magnifique horreur, etc. Et en même temps, elle a une attraction extraordinaire pour le Nord. Elle est extrêmement intéressée par le système britannique du point de vue politique. Pour elle, le modèle politique premier, c'est la monarchie parlementaire à l'anglaise qui fonctionne, etc. Mais elle est aussi très attirée par l'esthétique du Nord. Et ça, elle le montre très clairement dans de la littérature, où elle essaie de développer quelque chose qui va au-delà de la théorie des climats de Montesquieu, en disant que le Nord et le Sud ont donné lieu à des cultures différentes et à des esthétiques différentes. Et donc, elle met en évidence...
C'est ce que dit Montesquieu dans l'Esprit des lois, justement. Il montre comment chaque culture induit des tempéraments et des caractères qui vont avoir une répercussion directe sur la vie des gens, y compris dans le domaine politique.
Exactement. Et donc, Staël part de cette idée-là et elle essaie de développer donc l'opposition entre le Nord et le Sud par des biais esthétiques en particulier, et de regarder la manière dont ce qu'elle appelle la littérature, et elle a une conception très très large de la littérature, puisque ça englobe ce que nous appelons la philosophie, ça englobe l'éloquence, au sens de l'éloquence des discours, etc. Donc la manière dont cette littérature est en relation avec le contexte. Et donc, puisque la littérature, selon elle, est en relation avec le contexte, eh bien par la littérature, on devrait pouvoir faire évoluer la société, évoluer les régimes. Donc elle donne à la littérature une forme de valeur qui est une valeur politique à proprement parler et qui permettrait, selon elle, d'avoir une influence bénéfique et d'entraîner l'émergence d'une société plus juste, une société plus équitable, et d'aller vers ce qu'elle conçoit comme le but au fond de tout système politique, c'est le bonheur du peuple.
D'où le titre qu'elle donne à son ouvrage sur la littérature, de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. On est en 1800 et voici un extrait.
Tel qu'il est, je le publie, cet ouvrage. Alors qu'on a cessé d'être inconnu, encore vaut-il mieux donner de ce qu'on peut être une idée vraie que de s'en remettre au perfide hasard des inventions calomnieuses. Mais qu'on voudrait, au prix de la moitié de la vie qui reste à parcourir, ne pas être entré dans la carrière des lettres et de la publicité qu'elles entraînent. Les premiers pas qu'on fait dans l'espoir d'atteindre la réputation sont pleins de charme. On est satisfaite de s'entendre nommer, d'obtenir un rang dans l'opinion, d'être placée sur une ligne à part. Mais si l'on y parvient, quelle solitude, quel effroi n'éprouve-t-on pas? On veut rentrer dans l'association commune, il n'est plus temps. Je sais combien il est facile de me blâmer, de mêler ainsi les affections de mon âme aux idées générales que doit contenir ce livre. Mais je ne puis séparer mes idées de mes sentiments. Ce sont les affections qui nous excitent à réfléchir. Ce sont elles qui peuvent seules donner à l'esprit une pénétration rapide et profonde. Les affections modifient toutes nos opinions sur tous les sujets. L'on aime tels ouvrages parce qu'ils répondent à des douleurs, à des souvenirs qui disposent de nous-mêmes à notre insu. L'on admire avant tout certains écrits parce que seuls ils ont ému toutes les puissances morales de notre être. Les esprits froids voudraient qu'on ne leur présentât que les aperçus de la raison, sans y joindre ces mouvements, ces regrets, ces égarements de la rêverie qui n'exciteront jamais leur intérêt. Je me résigne à leur critique. En effet, comment pourrais-je l'éviter? Comment distinguer son talent de son âme? Comment écarter ce qu'on éprouve et se retracer ce que l'on pense? Comment imposer silence aux sentiments qui vivent en nous et ne perdre cependant aucune des idées que ces sentiments nous ont fait découvrir? Quels seraient les écrits qui pourraient résulter de ces continuels efforts? Et ne vaut-il pas mieux se livrer à tous les défauts que peut entraîner l'irrégularité de l'abandon naturel?
Vous écoutez France Culture, Les Chemins du Vendredi, où je reçois comme chaque semaine l'auteur, alors non pas d'un essai qui vient de paraître, mais d'une édition de textes de Germaine de Staël. Eh bien, c'est la présentation, notamment, est rédigée par Catriona Seth, qui est mon invitée aujourd'hui et qui nous conte cette vie romanesque de Germaine de Staël. Et on vient d'entendre un extrait de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. C'est le comédien Georges Claes qui a prêté sa voix à Germaine de Staël. Alors, le texte est formidable, il est génial, vous me disiez hors micro, Catherine Assès, qui montre votre enthousiasme qui est bien palpable dans votre introduction. C'est donc un plaisir de vous entendre en parler. Ce qui surprend dans ce texte, notamment, c'est l'utilisation des pronoms. Elle commence, alors le texte se trouve à la fin de son ouvrage, mais il commence comme ceci, tel qu'il est, je le publie cet ouvrage, elle dit je, mais ensuite elle passe au on. On est satisfaite de s'entendre nommer, d'obtenir un rang, on veut rentrer dans l'association commune. Pourquoi ce passage du je au on?
Alors je crois que Germaine de Staël est très consciente à la fois d'être un individu unique et de subir des choses qui dépendent de son sexe.
Voilà, les 11, ce sont les femmes.
Alors je pense que pour elle, quand elle s'engage en disant « je ». Elle ne craint jamais de dire « je ». Hein, elle dit, dans un texte antérieur de l'influence des passions, elle se décrit comme condamnée à la célébrité. Donc elle n'a absolument pas peur du « je » à un moment où peut-être on ne l'attendrait pas. Puisque là, vous avez raison, nous sommes dans un essai qui a été un essai qui n'a pas donné voix de la même manière à la première personne jusqu'à cette partie finale. Et elle montre, je pense, dans cette fin comme ailleurs dans ses textes, qu'on l'attaque comme individu, mais on l'attaque aussi comme représentante de quelque chose qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire la femme qui pense. Mmh. La femme qui pense est dangereuse, la femme qui pense dérange, la femme qui pense transgresse le modèle que l'on attend. Le modèle, vous parliez de Napoléon tout à l'heure, eh bien ce modèle de Napoléon, c'est la femme qui reste à la maison et élève ses enfants. Eh bien Germaine de Staël dit « moi j'ai besoin de parler, j'ai des choses à dire et il faut du coup qu'on m'entende, mais en même temps je subis le sort de celle qui, de toutes celles qui pourraient avoir envie de s'exprimer ».
C'est une femme qui prend des risques, c'est une femme qui s'expose à tel point qu'elle se présente comme étant vulnérable et elle le dit elle-même, elle dit « mais on voulait s'entendre nommer, jouir d'une certaine réputation, mais une fois que ça arrive, On veut rentrer dans l'association commune, dit-elle, et il n'est plus temps. Comme si elle savait que sa position de grande exposition pouvait à tout moment se retourner contre elle.
Alors je crois qu'elle en a très vite été consciente. Germaine de Staël a beaucoup subi les critiques de ses adversaires et elle a subi des critiques qui lui étaient destinées, mais aussi des critiques qui étaient destinées aux hommes qui ont partagé sa vie. On a parlé de Louis de Narbonne, mais on aurait pu parler, bien entendu, de Benjamin Constant, qui a été...
Dont elle a été amoureuse, avec qui elle a eu une histoire, une affaire.
Avec qui elle a eu une histoire qui a duré longtemps, qui a été en quelque sorte probablement l'homme qui a le plus compté pour elle, et vice-versa. Ce sont vraiment deux grands esprits qui ont une aventure intellectuelle et affective commune et tout à fait frappante. Ils ont vraiment politiquement, je pense, fait un bout de chemin ensemble. Mais Germaine de Staël donc subit des attaques. Quand Louis de Narbonne fait quelque chose qui déplaît, on dit, eh bien, c'est la faute de Germaine de Staël. Quand Louis de Narbonne est nommé au ministère, Marie-Antoinette écrit dans une lettre, eh bien, voilà Narbonne ministre, c'est Madame de Staël qui doit être contente. En quelque sorte, c'est elle l'intrigante qui poussait. Même chose quand Benjamin Constant déplaît par son discours au tribunal. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est le salon de Madame de Staël qui est déserté. Donc, Germaine de Staël subit ce que les autres lui reprochent parce qu'elle est associée à des hommes. Elle subit aussi des reproches qui sont des reproches directs, je dirais littéraires, politiques, etc., parce qu'on n'est pas d'accord avec ses idées. Ces reproches-là, elle les tolère très bien. En revanche, ce qu'elle supporte très mal et ce qui l'a fait pleurer, d'après le témoignage de Humboldt en particulier, ce sont les attaques méchantes contre elle en tant que femme. Donc on la caricature, on caricature ses propos, on parle d'elle vraiment comme d'un personnage qui ne saurait pas penser qu'il serait une femme qui devrait en rester vraiment à ses affaires de bonne femme, etc. Et ça, ça lui déplaît. Ces attaques qui sont des attaques non pas ad hominem, mais ad feminam, pourrait-on dire, elle a du mal à les supporter.
D'autant qu'elle revendique l'impossibilité pour elle de séparer ses idées de ses sentiments. Alors qu'on associe le féminin à l'époque, mais encore aujourd'hui, au domaine du sentimental, aux passions, tandis que les hommes seraient possesseurs des idées et détenteurs même des bonnes idées et de l'intelligence. Elle le dit dans le texte qu'on a entendu, elle ne peut pas séparer ses idées de ses sentiments. Donc elle se complique encore la tâche en essayant de ne pas tourner le dos avec ce domaine de l'existence auquel elle tient tant, parce que c'est une femme passionnée qui ressent et qui excelle dans l'art de décrire les sentiments.
Alors Germaine de Staël excelle dans l'art de décrire les sentiments, mais elle excelle aussi dans l'art de les analyser. Et je pense qu'elle a raison. Maintenant, nous n'irions pas dire que les raisons sont totalement indépendantes des sentiments. Je pense qu'il y a une clarté, une acuité de vision de Germaine de Staël qui conçoit l'existence d'une économie des affects qui entre en ligne pour des questions politiques, philosophiques, etc. Et je dirais que c'est une manière pour elle aussi peut-être de tempérer l'espèce d'idéalisme des idéologues de l'époque qui veulent presque tout réduire à des axiomes, à des calculs, etc., qui se disent « mais on devrait pouvoir calculer la manière de manipuler en quelque sorte les êtres pour arriver à la parfaite république, on devrait pouvoir mathématiser l'être humain ou presque ». Germaine de Staël dit « oui mais non ». Il y a aussi les sentiments, il y a aussi l'enthousiasme. Donc oui, on peut mettre en place, par exemple, des règles, on peut encourager les gens à faire différentes choses avec différents types de systèmes politiques, avec des lois, mais il faut aussi compter sur cette énergie vertueuse qu'est l'adhésion par le sentiment, par l'enthousiasme, par exemple.
Et ce sera le sujet de ces livres, notamment. Alors, elle propose à la fois donc des réflexions plus théoriques sur littérature et des romans qui mettent en scène ce recours à l'imagination et au romanesque pour dépeindre un portrait de l'âme, et bien souvent des portraits de femmes malheureuses. Et ça, c'est assez surprenant parce que quand on vous écoute et quand on lit les textes, il y a indéniablement une dimension très féministe. Et pourtant, les femmes qu'elle met en scène sont des femmes malheureuses.
Alors là encore, Germaine de Staël, je pense, est convaincue que le sort commun des femmes n'est pas heureux à son époque. Elle est convaincue que naître femme, c'est au fond avoir la société contre soi. Et c'est très clair dans Delphine, son premier roman.
Donc, 1802.
1802, en effet. Dans Delphine, donc l'héroïne Delphine, elle va être victime de l'opinion. Elle ne va pas oser en quelque sorte transgresser les critiques de l'opinion pour épouser l'homme qu'elle aime, Léonce. Et Léonce, en contrepartie, qui est un homme qui devrait savoir braver l'opinion, eh bien, il est trop lâche quelque part. Et ces deux personnages, celle qui aurait pu peut-être dépasser les choses parce qu'elle en avait les moyens intellectuels, émotionnels, etc., ne le fera pas. Et lui ne le fera pas parce que il a une forme de lâcheté, de conformisme et ainsi de suite. Mais je crois que cette femme malheureuse, elle l'est parce que la société l'a rendue malheureuse.
C'est ce que vous dites dans l'introduction que vous avez lue. Hein, finalement, les femmes, les gens regardent cette personne qui est Germaine de Staël parce qu'elle, non pas pour sa littérature, mais pour son malheur. C'est si important que ça ?
Alors, je crois que c'est important parce que c'est une manière pour les gens qui la perçoivent de se dire « mais quelque chose existe » pour qu'on veuille persécuter quelqu'un comme Germaine de Staël, qui au fond est une femme parmi d'autres, fille de ministre parmi d'autres, épouse d'un baron ambassadeur étranger parmi d'autres, mais qu'on veuille s'acharner sur elle, ça doit donc bien vouloir dire qu'il y a quelque chose.
Mais elle a un pouvoir énorme, vous l'avez dit, on l'a comparé à Napoléon. Elle a aussi, ça on l'a pas évoqué, était à l'origine de ce qu'on appelle le groupe de Coppée.
Alors, elle est à l'origine du groupe de Coppée, et je dirais que c'est peut-être...
Peut-être présentez-le en deux mots, ce groupe de Coppée.
Alors, c'est peut-être l'envers heureux, justement, de ces exils napoléoniens. Alors, le groupe de Coppée renvoie déjà à un lieu, Coppée, donc sur les bords du Léman.
C-O-P-E-T.
Où son père, donc Jacques Nècre, a acheté pendant la jeunesse, donc de la future Madame de Staël, un château qui est une belle grosse maison, et où Germaine de Staël va passer une grande partie de son exil, donc recevant les gens qu'elle ne peut pas recevoir en Suisse. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Coppée va devenir un lieu de fermentation intellectuelle où vont passer tous les grands esprits du temps. Stendhal, quand il parle de Coppée, dit que c'était les états généraux de l'opinion européenne. Et le groupe de Coppée va être caractérisé par plusieurs aspects. Un aspect politique, hein, donc un libéralisme qui est très cher au cœur de Germaine de Staël, mais que partagent des gens comme Benjamin Constant ou Sismondi, mais aussi par une sorte de vision européenne. Germaine de Staël est très proche des Schlegel, par exemple. Elle reçoit des hôtes anglais, des Italiens, des Allemands, et ainsi de suite. Et elle a une vision européenne, véritablement. Et cet esprit de Coppée, du coup, va être en quelque sorte le contre-pouvoir intellectuel de Napoléon. Ça va être le lieu de brassage des idées qui vont être les idées d'opposition, qui vont aider à faire émerger des théories un peu plus tard, comme celle de Tocqueville.
C'est ça, d'où l'importance qu'elle représente, qu'elle revêt aux yeux non seulement de Napoléon, mais de ses contemporains. Donc le malheur dont nous parlons s'explique aussi par, et est à la mesure sans doute de l'influence qu'elle exerce sur ses pairs.
Oui, et je pense que l'exil est quelque chose qui frappe particulièrement les esprits. On est, après tout, dans la période juste après la Révolution française, où toute une série de personnes se sont retrouvées en déroute, en quelque sorte, pour différentes raisons, déracinée. Et Germaine de Staël, qui est celle qui demande à rentrer en France, eh bien, ne peut pas rentrer en France. Elle est envoyée sur les routes de l'Europe. Et au départ, elle ne veut pas se fixer à Coppée parce qu'elle a l'impression que ce sera un lieu trop étriqué pour elle. Elle va voyager. Vous faisiez référence à ses voyages. Et Coppée, je dirais, émergera progressivement comme ce lieu de contre-pouvoir qui permet une manière de penser autrement l'avenir européen.
On va entendre un extrait d'un roman de Germaine de Staël. Il s'agit de Delphine, puisqu'on en a dit deux mots. Nous sommes donc en 1802. Au moment où paraît ce texte, Germaine de Staël est déjà bien connue.
Alors, au moment où paraît le texte, Germaine de Staël est déjà bien connue, mais Delphine va lui offrir un succès différent et nouveau. Et avant d'écrire Delphine, pendant qu'elle est en train de préparer le roman, elle dit « mais je vais m'essayer au roman maintenant, je vais parler à un public différent ». Et alors que jusque-là, elle a écrit dans des genres qui n'étaient pas considérés comme des genres traditionnels pour les femmes, puisqu'elle a écrit plusieurs essais, pamphlets, etc., eh bien là, le roman est le genre qu'on considère comme celui dans lequel une femme peut peut-être s'exprimer.
Car un bon roman, dit-elle, c'est celui qui élucide le cœur humain.
Les événements ne doivent être dans les romans que l'occasion de développer les passions du cœur humain. Il faut conserver dans les événements assez de vraisemblance pour que l'illusion ne soit point détruite. Mais les romans qui excitent la curiosité seulement par l'invention des faits ne captive dans les hommes que cette imagination qui a fait dire que les yeux sont toujours enfants. Les romans que l'on ne cessera jamais d'admirer, Clarisse, Clémentine, Tom Jones, la nouvelle Héloïse, Werther, etc., ont pour but de révéler ou de retracer une foule de sentiments dont se compose au fond de l'âme le bonheur ou le malheur de l'existence. Ces sentiments que l'on ne dit point parce qu'ils se trouvent liés avec nos secrets ou avec nos faiblesses, et parce que les hommes passent leur vie avec les hommes sans se confier jamais mutuellement ce qu'ils éprouvent. L'histoire ne nous apprend que les grands traits manifestés par la force des circonstances, mais elle ne peut nous faire pénétrer dans les impressions intimes qui, en influant sur la volonté de quelques-uns, ont disposé du sort de tous. Les découvertes en ce genre sont inépuisables. Il n'y a qu'une chose étonnante pour l'esprit humain, c'est lui-même. The noblest study of mankind is man. Cherchons donc toutes les ressources du talent, tous les développements de l'esprit dans la connaissance approfondie des affections de l'âme. Et n'estimons les romans que lorsqu'ils nous paraissent, pour ainsi dire, une sorte de confession dérobée à ceux qui ont vécu comme à ceux qui vivront. Observer le cœur humain, c'est montrer à chaque pas l'influence de la morale sur la destinée. Il n'y a qu'un secret dans la vie, c'est le bien ou le mal qu'on a fait. Il se cache, ce secret, sous mille formes trompeuses. Vous souffrez longtemps sans l'avoir mérité, vous prospérez longtemps par des moyens condamnables, mais tout à coup, votre sort se décide. Le mot de votre énigme se révèle. Et ce mot, la conscience l'avait dit bien avant que le destin l'eût repéré. C'est ainsi que l'histoire de l'homme doit être représentée dans les romans. C'est ainsi que les fictions doivent nous expliquer, par nos vertus et nos sentiments, les mystères de notre sort.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de Germaine de Staël. Aujourd'hui, à l'occasion de la parution en Pléiade d'un volume comprenant trois de ses textes, dont deux romans les plus connus, hein, Delphine, dont on vient d'entendre un extrait, et Corinne. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Catriona Seff. On va commenter ce texte ensemble dans un instant, Catriona Seff, mais quand même un mot sur ce que nous sommes en train d'écouter, Le Rang des Vaches. Qu'est-ce que c'est ?
Alors nous sommes en train d'écouter Le Rang des Vaches, qu'on appelle aussi parfois Lioba, ce qui correspond aux deux notes lio-ba que vous entendez. Le Rang des Vaches, c'est le chant des Armaillis de la Gruyère. C'est un chant donc des paysans suisses et dont Rousseau a fait le modèle de la mémoire affective. Rousseau dit, vous prenez un Suisse et il est par exemple au service du roi de France. Vous lui faites entendre quelques notes de cette musique, il désertera. Pourquoi ? Parce que dans Le Rang des Vaches est contenu en quelque sorte tout ce qui peut le retransporter vers ses montagnes natales. Donc il dit ça lorsqu'il reprend quelque chose qui a déjà été théorisé par l'une des premières personnes à parler de la nostalgie et de la mélancolie. Mais Germaine de Staël est très sensible aussi à cette question de mémoire affective et au rôle que la musique peut jouer dans la mémoire affective. Donc elle relève différents exemples, elle fait allusion implicitement au Rang des Vaches dans de la littérature. Et on en reparlera peut-être à propos de Corinne. Elle utilise une mélodie écossaise dans Corinne comme une forme de mémoire affective possible pour l'un des personnages.
Auditeur suisse, c'est pour vous. Alors je doute que l'effet procuré au XXIe siècle soit identique à celui qu'il procurait au XIXe siècle. On verra, hein, j'attends le courrier des auditeurs. Le texte, Catherine Asset, qu'on a entendu, est sublime parce que c'est un texte donc, qui se trouve dans la préface du roman Delphine et qui dit de manière très simple ce qui est si difficile à nommer, à savoir la fonction du roman qui consiste précisément à dire, à nommer ces sentiments que l'on ne dit point parce qu'ils se trouvent liés avec nos secrets et avec nos faiblesses, et parce que les hommes, dit-elle, passent leur vie avec les hommes sans se confier jamais mutuellement ce qu'ils éprouvent. Si bien que la fonction du roman, c'est finalement d'être une forme de confession.
Alors le roman est une forme de confession et le roman est une forme de mémoire et de miroir aussi. Je crois que ce sont les fonctions que Germaine de Staël assigne à la fiction. Elle va l'écrire à nouveau dans « De l'Allemagne » lorsqu'elle évoquera la fonction de la fiction en disant au fond « L'avantage de la fiction, c'est qu'elle nous parle de nous » mais en ayant cette espèce d'élégance de mettre le nom de quelqu'un d'autre à la place. Et au fond, c'est vrai. Quand on lit des romans, en général, on a envie de se retrouver ou de trouver des sentiments qu'on peut partager. Les héros qu'on aime sont les héros par lesquels nous sommes émus, qui nous touchent. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une résonance. Et cette résonance, elle vient du fait que les personnages romanesques, fictifs ou théoriquement fictifs, éprouvent des sentiments qui sont analogues aux nôtres ou sont confrontés à des cas de conscience qui sont peut-être proches des nôtres, aux dilemmes qui sont proches des nôtres. Et je pense que dans Delphine, il y a vraiment cette idée-là aussi. Prenons un personnage comme une espèce de terreau d'expérimentation. Un personnage qui peut ressentir ce que nous ressentons et permettons-lui de dire ce que nous n'osons pas dire, mais ce que nous ressentons.
Alors, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que Delphine va essayer d'arranger un mariage avec l'une de ses, enfin, pour l'une de ses parentes éloignées, une certaine Mathilde de Vernon, avec Léonce de Mondeauville. Et puis finalement, c'est elle-même, Delphine, qui va tomber amoureuse de ce Léonce.
Oui, et Léonce et Delphine, clairement, sont faits l'un pour l'autre. Et Mathilde et Léonce ne sont pas du tout faits l'un pour l'autre. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les conventions de la société vont entraîner Delphine et Léonce dans une série tout à fait extraordinaire d'événements et ils n'auront jamais la fin heureuse à laquelle on pouvait espérer.
Sans spoiler, c'est vrai que les fins sont toujours tragiques. On l'a dit de toute façon hein, que les femmes chez Germaine de Staël avaient rarement des destins heureux. On peut parler de littérature du renoncement ici ?
Alors, je pense qu'on peut parler de littérature du renoncement.
Ça s'applique à Madame de Lafayette, hein, notamment. Mais...
Et je crois qu'on peut le dire aussi bien pour Delphine que pour Corinne. Parce que dans Delphine, comme dans Corinne, il y a des moments où les personnages pourraient un petit peu forcer la main du destin, si l'on veut, et où ils ne le font pas. Alors, dans le cas de Delphine, en partie pour des raisons sociales, en partie parce que Delphine, c'est assez remarquable pour être signalée, elle est perdue par sa bienveillance. Et là, je crois que c'est vraiment un trait de caractère qu'elle tenait de Germaine de Staël, qui était d'une grande générosité. Elle a mis sa bourse, ses réseaux, etc., au service non seulement de ses amis, mais de toute personne en détresse. On le sait, pendant la Révolution, elle a secouru des gens de tous bords, parce que être malheureux, c'était suffisant comme raison pour faire appel à sa bonté. Et Delphine est un petit peu comme ça. Elle se fait avoir à plusieurs reprises, et sa bienveillance fait, par exemple, pour prendre la première occasion, qu'elle ne proposera pas de rompre les fiançailles tout à fait arrangées entre Mathilde et Léonce pour pouvoir elle-même épouser Léonce. Ce qui aurait été assez simple, n'aurait pas fait un scandale immense, mais elle ne conçoit pas ça comme une possibilité. Et dans Corinne aussi, il y a une forme de renoncement.
Chez Corinne, c'est presque encore plus tragique. Enfin, c'est comme ça que moi, je le reçois, puisque chez Corinne, finalement, on a cette femme, une poétesse, femme indépendante, et cet homme, Oswald, Lord Nelville, qui, bon, se voyage en Italie. Et finalement, Oswald va préférer la sœur de Corinne, et qui est une femme beaucoup plus ordinaire. C'est comme si Corinne elle-même était victime, eh bien, de sa brillance, de sa somptuosité, de son caractère exceptionnel. Et finalement, bah, c'est ça qui était tragique, c'est de ne pas être ordinaire.
Alors, c'est quelque chose, je crois, que ressent parfois Germaine de Staël. La femme supérieure a un destin tragique. Et c'est vrai dans Corinne, c'est vrai dans Delphine, c'est vrai aussi dans une nouvelle comme Zulma, une des nouvelles de jeunesse. C'est vrai dans Sappho, la pièce qu'elle a rédigée. Pour Germaine de Staël, et je crois que là, il y a une partie, je parlais du roman qui est un peu un miroir, il y a une partie de reflet de sa propre vie. Il y a des moments, je crois, où elle voudrait quelque part, être comme les autres et ne pas être cette femme supérieure qui fait peur, cette femme supérieure qui terrorise les autres au point où ils ne savent plus comment la décrire, où on en fait une espèce d'amphibie, comme on disait à l'époque, en disant « mais c'est une femme qui est comme un homme, elle pense comme un homme ». Donc ça dérange et il y a des moments où elle voudrait simplement être prise comme une femme comme une autre.
Il y a quand même quelque chose d'extrêmement négatif, voire de punitif. C'est-à-dire qu'il y a une dimension morale dans ses écrits où à la fois elle veut dépeindre l'âme humaine, on l'a dit, mais elle veut aussi l'élever, essayer de faire en sorte qu'après la lecture, eh bien, le lecteur en sache davantage sur l'âme humaine. Mais cette éducation dispensée au lecteur semble avoir pour corollaire une forme, oui, peut-être de punition, en tout cas quelque chose de très sévère à son égard.
Alors je crois qu'il reste chez Germaine de Staël une forme d'austérité assez nette, qui est, je pense, héritée des antécédents protestants de sa famille. Germaine de Staël est quelqu'un qui a été élevé dans la foi protestante. C'est quelque chose d'assez inhabituel en France, bien entendu au XVIIIe siècle, où le catholicisme est religion d'État. Je l'ai dit, son grand-père du côté maternel, qu'elle n'a pas connu, puisque sa mère a été orpheline tôt, son grand-père maternel était pasteur. Donc il y a cette grande tradition protestante. Et il y a aussi, je crois, dans cette tradition protestante, l'idée d'analyse de conscience. On se doit de pouvoir rendre compte à Dieu de sa propre expérience, de ses propres actes. Et je pense que Germaine de Staël a été marquée par cela dans sa vie et dans ses écrits.
On écoute un dernier extrait ensemble, Catherine Asset, un extrait de Corinne ou l'Italie, non seulement 1807. Et alors c'est un texte qui est intéressant parce que la narratrice, Corinne, se surprend à s'imaginer elle-même pour une fois, donc non pas comme une femme exceptionnelle qui du coup connaît la déchéance, mais au contraire qui a un avenir esthétique rayonnant. Écoutez.
Oswald et Corinne allèrent d'abord au Panthéon, qu'on appelle aujourd'hui Sainte-Marie de la Rotonde. Partout en Italie, le catholicisme a hérité du paganisme. Mais le Panthéon est le seul temple antique à Rome qui soit conservé tout entier, le seul où l'on puisse remarquer dans son ensemble la beauté de l'architecture des anciens et le caractère particulier de leur culte. « Entrons dans le temple, » dit Corinne. « Vous le voyez ? Il reste découvert, presque comme il l'était autrefois. On dit que cette lumière qui venait d'en haut était l'emblème de la divinité supérieure à toutes les divinités. Les païens ont toujours aimé les images symboliques. Il semble en effet que ce langage convient mieux à la religion que la parole. La pluie tombe souvent sur ces parvis de marbre, mais aussi les rayons du soleil viennent éclairer les prières. Quelle sérénité, quel air de fête on remarque dans cet édifice. Les païens ont divinisé la vie et les chrétiens ont divinisé la mort. Tel est l'esprit des deux cultes. Mais notre catholicisme romain est moins ombre cependant que ne l'était celui du Nord. Vous l'observerez quand nous serons à Saint-Pierre. Dans l'intérieur du sanctuaire du Panthéon sont les bustes de nos artistes les plus célèbres. Il décore les niches où l'on avait placé les dieux des anciens. Comme depuis la destruction de l'Empire des Césars, nous n'avons presque jamais eu d'indépendance politique en Italie, on ne trouve point ici des hommes d'État ni de grands capitaines. C'est le génie de l'imagination qui fait notre seule gloire. Peut-être en vivant en Italie, éprouverez-vous un sentiment d'attendrissement sur ce beau pays que la nature semble avoir paré comme une victime. Mais du moins, souvenez-vous que notre plus chère espérance à nous autres artistes, à nous autres amants de la gloire, c'est d'obtenir une place ici. « J'ai déjà marqué la mienne, » dit-elle en montrant une niche encore vide. « Oswald, qui sait si vous ne reviendrez pas dans cette même enceinte quand mon buste y sera placé ?»
C'est ici une Corinne non pas malheureuse, mais presque joueuse, qui met au défi Oswald en lui disant « Mais si vous revenez un jour dans le futur, ici, dans ce Panthéon, eh bien peut-être que vous y verrez mon propre buste, ne doutant pas ici de son destin qui lui serait favorable, Catherine Asset. »
Alors l'ouverture de Corinne montre un personnage solaire. Quand on croise le personnage, elle arrive au livre 2, c'est au moment où elle est couronnée au Capitole, première femme à être couronnée au Capitole, etc. Et elle est représentée comme une espèce de prêtresse d'Apollon. Elle est l'incarnation de l'Italie. Elle est ce qui fait revivre à la fois l'Italie antique, l'Italie de Dante, etc., l'Italie du Tasse. Elle est un personnage qui concentre toutes les valeurs solaires de l'Italie et qui a cette perspective d'incarner un avenir rayonnant. Et ce personnage est tout à fait surprenant dans la mesure où il représente en effet l'Italie aussi, et que le roman Corinne ou l'Italie est une manière pour Germaine de Staël d'évoquer un avenir européen autre dans lequel l'Italie cessera d'être une série de petits États morcelés et redeviendra une grande puissance comme elle l'a été par exemple à l'époque romaine. Et elle redeviendra une grande puissance comment ? Eh bien justement par le biais d'une culture partagée. Et entre autres
culture sans frontières donc.
Par une culture sans frontières et par une culture qui serait le ciment permettant d'unir les différentes petites nations dans leur diversité.
Merci beaucoup Catherine Assef d'être venue nous parler de Germaine de Staël aujourd'hui. On aurait pu en votre compagnie continuer à entendre beaucoup d'autres textes, mais je renvoie les auditeurs à la lecture du volume de la Pléiade, dans laquelle vous avez rassemblé trois textes, donc Corinne, Delphine et l'essai sur la littérature, de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, pour donner le titre exact. Et puis je renvoie à l'introduction aussi qui ouvre ce recueil. Un grand merci et à bientôt.
Merci, à bientôt.
Dear Corinna, tell me where'd you stay last night? Came in this morning, sun was shining bright. I met Corinna way across the sea. I met Corinna way across the sea. She wouldn't write no letters, she didn't care for me.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver, comme tous les vendredis, le petit précis philosophique de Géraldine Mesnil-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Alors jusque-là, vous dispensiez vos conseils aux candidats en lice pour l'élection présidentielle, mais aujourd'hui, c'est plutôt aux électeurs que vous avez envie de vous adresser.
Mais oui Adèle, ça y est, on y est. Le premier tour des élections présidentielles aura lieu dans 2 jours. Il est donc encore temps de prendre conseil, et encore pour les électeurs. Après la question posée la semaine dernière, comment se décider ? Que faut-il espérer de cette élection aujourd'hui ? Faut-il même espérer ? Autrement dit en politique, l'espoir nous fait-il vivre ou nous trompe-t-il ?
J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après...
Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais pas me présenter du tout.
Dans une chronique qui date de 1888, La grève des électeurs, l'écrivain et journaliste Octave Mirbeau se lamentait de ne pas trouver un seul texte faisant, à la manière de Balzac, une physiologie de l'électeur moderne. À quel sentiment baroque, demandait-il, à quelle mystérieuse suggestion peut bien obéir ce bipède pensant, doué d'une volonté, assuré qu'il accomplit un devoir en déposant dans une boîte électorale quelconque un quelconque bulletin, peu importe le nom qu'il ait écrit dessus. Qu'est-ce qu'il doit bien se dire en dedans de soi, qui justifie ou seulement qui explique cet acte extravagant, qu'est-ce qu'il peut bien espérer ? L'espoir, voilà peut-être de quoi faire le portrait de l'électeur. D'autant plus que Mirbeau lui-même comparait les électeurs à des moutons qui vont à l'abattoir, à ceci près que les moutons, eux, ne votent pas pour le boucher qui les tuera, et pour le bourgeois qui les mangera, et à ceci près surtout qu'il n'espère rien. Et c'est là le problème de l'espoir en campagne, il est à la fois la caractéristique de tout électeur et peut-être sa première illusion. Mais l'illusion, n'est-ce pas aussi d'aller voter et de vouloir en même temps ne plus rien espérer ? À l'inverse de Mirbeau, on doit justement à Descartes sur la question de l'espoir plus de précision. Dans son traité, le dernier, Les passions de l'âme, il fait ainsi de l'espérance, je cite, « une disposition de l'âme à se persuader que ce qu'elle désire adviendra ». Espérer, c'est donc d'abord une passion bien normale pour un électeur à la veille d'un premier tour. Car on attend, persuadé de l'événement à venir, qu'il nous fasse du bien, qu'il améliore notre existence. C'est ainsi, par exemple, l'espoir de voir son candidat être élu et ses idées enfin mises en œuvre. Ou c'est au moins l'espoir de ne pas voir arriver à la tête du pays un chef que l'on craint. Mais l'espoir, c'est aussi une passion quelque peu paradoxale et aussi pour un électeur à la veille d'un premier tour. Car se persuader, est-ce être complètement sûr? N'y a-t-il pas en effet un doute sur le fait que notre candidat de cœur, ou choisi stratégiquement, nous procure des bienfaits? N'y a-t-il pas aussi un doute sur les autres électeurs qui espèrent peut-être tout autre chose que nous? Mais n'y a-t-il pas surtout un doute sur nous-mêmes? Puisque c'est bien notre âme qui se persuade d'abord elle-même d'espérer. Et si l'illusion, ce n'était ni la portée du vote, ni l'espoir, mais nous-mêmes qui sommes si incertains. Descartes l'affirme, nous pouvons espérer, bien que l'événement ne dépende aucunement de nous. Mais pourquoi l'espoir est-il alors d'abord une affaire avec nous-mêmes, et même en campagne où tout dépend des uns et des autres? Pourquoi cherche-t-on à se persuader soi-même que ce qu'on désire adviendra, avant même de vouloir persuader les autres, par exemple de voter pour tel candidat? Ou pourquoi ne parvient-on pas à désirer tout simplement, bien patiemment, sans espoir ni illusion, en allant juste voter dimanche prochain? C'est l'enjeu de toute passion, elle se joue entre nous et nous-mêmes, et c'est ainsi que Descartes préconise de distinguer ce qui ne dépend que de nous, afin de n'étendre notre désir qu'à cela seul. Mais que faire alors en cette période d'attente, où l'espoir semble d'autant plus se jouer de nos incertitudes qui le rend nécessaire que de notre propre foi qui le fait exister? Comment l'écarter par sa pensée ou le maîtriser par sa volonté quand lui-même n'a rien de l'illusion, mais nous fait justement penser et vouloir? C'est bien le paradoxe, que faire de notre espoir quand on l'espère nous-mêmes?
Eh bien, j'ai besoin d'un conseil, Géraldine. L'électeur que je suis, l'électrice que je suis, a besoin de votre conseil.
Eh bien, Adèle, je vais vous en donner un. La question était de savoir si l'espoir nous trompait ou nous faisait vivre. Mais on peut aussi inverser cette question et se demander si nous-mêmes, nous ne jouons pas de l'espoir pour continuer à vivre ou tout simplement à voter. Voilà donc mon conseil pour vous et pour tous les électeurs, c'est de lire ces passions de l'âme de Descartes où l'on découvre qu'espérer, ce n'est pas seulement pâtir et souffrir, mais tout simplement s'exercer avec passion, grâce à la passion, à cette vertu.
Merci Géraldine de ce précieux conseil et j'invite les auditeurs à le réécouter en ligne en vous rendant sur le site de France Culture, la page des chemins de la philosophie. On peut réécouter votre chronique ainsi que la télécharger, la podcaster. Et ce sont évidemment les émissions de cette semaine en entier qui sont téléchargeables, celles consacrées aux anti-lumières de lundi à jeudi, puis celles d'aujourd'hui avec Catherine Assès sur Madame de Staël, qui paraît donc dans la bibliothèque de la Pléiade. Enfin, certaines œuvres paraissent dans la bibliothèque de la Pléiade ce mois-ci. Merci à tous, merci à Géraldine Mostasavoie, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Livia Garrigue, Nicolas Bouteloup, Olivier Bétard qui a réalisé cette semaine, Clément Daté et Alain Joubert qui étaient à la prise de son. On se retrouve lundi prochain. Alors lundi prochain, on se déplacera près de Boston dans une cabane en bois construite de nos propres mains en compagnie de Henry David Thoreau. Et oui, une semaine sur le philosophe Thoreau, c'est ce que nous vous proposons. On dira Thoreau hein, toute la semaine. Qu'est-ce que le transcendantalisme, Walden ou la vie dans les bois, la désobéissance civile et le magnifique journal du philosophe? C'est le programme de la semaine prochaine. Rendez-vous sur nos comptes Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour, puis attendons vos remarques, et commentaires et suggestions. À 11h sur France Culture, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde. Et tout de suite, sans plus attendre, votre feuilleton quotidien, La vie moderne.